Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous invite à ouvrir soit vos téléphones, soit vos Bibles, dans l'évangile de Jean, au chapitre 25. Et puis, on va méditer ce texte tous ensemble, les versets 25, chapitre 16, versets 25 à 33. Je vous ai dit, c'est Jésus qui parle donc, je vous ai dit tout cela en discours figuré. L'heure vient où je ne vous tiendrai plus de discours figurés, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. En effet, c'est le Père lui-même qui est votre ami, parce que vous, vous avez été mes amis, et que vous avez acquis la conviction que je suis sorti de Dieu. Je suis... Moi, Jésus, sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples disent, « Maintenant, tu parles ouvertement et tu ne tiens plus de discours figuré. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as besoin de paix, que personne ne t'interroge plus. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ah bon, vous croyez maintenant ? » L'heure vient et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la détresse, mais courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Cette action de Jésus conserve une bonne part de mystère quant à sa réalisation effective. Quelque chose échappe à notre compréhension lorsque l'on essaye de déterminer comment Jésus a pu sortir de son Père et rejoindre le monde. Nous ne le savons pas, et rien ne nous permet de le savoir, même en scrutant très bien la parole. Ce geste appartient à Dieu, souverain en toutes choses. Et plutôt que de laisser courir notre imagination, laissons simplement Dieu être Dieu et laissons-le à sa place de créateur. Gardons-nous notre place, nous, de créature. La venue dans le monde de Jésus, par contre, est une chose absolument certaine, sur laquelle nous nous appuyons sereinement. Nous savons que Jésus a existé, qu'il a eu un ministère en Galilée durant plusieurs années, qu'il a fait des disciples et qu'il est mort sur une croix. Tout cela, plus personne ne le conteste, mis à part les personnes qui veulent absolument discréditer le christianisme, mais en affirmant des choses qui sont tout simplement fausses. Cette venue dans le monde, plus personne ne la conteste, même sa mort sur la croix. Par contre, l'endroit où le monde et tout le monde ne partagent pas le même avis, c'est précisément sur ce mouvement qui va du ciel vers la terre. Ce mouvement qui voit Jésus sortir de son Père pour venir vers nous. Ce mouvement que nous avons chanté tout à l'heure et que nous faisons nôtre, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Jésus qui voit son destin changer, où il sort de son Père là où il règne, nous l'avons aussi chanté, là où il est en plénitude de communion avec son Père, pour venir nous rejoindre, nous, là où nous sommes, dans notre monde. Ainsi que le mouvement de retour, ce qu'on va fêter dans quelques jours, parce que le week-end de l'Ascension, ce n'est pas qu'un week-end prolongé, c'est avant tout cette fête où nous pouvons nous souvenir de ce mouvement de retour de Jésus qui retourne vers son Père en nous laissant là. Et en tant que chrétiens, nous plaçons notre foi dans ces deux mouvements, unique et salvateur. Nous donnons tout spécialement notre foi à ces paroles de Jésus, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Et ainsi, par la foi et avec les disciples, nous pouvons dire, maintenant, en reprenant les paroles de Jean, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Et c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. En quoi ces paroles nous renseignent-elles également sur Dieu? Par cette confession, nous découvrons toujours et tout à nouveau un aspect important et fondamental de la personne de Dieu. C'est parfois bien de se poser la question de ce qu'on apprend de Dieu lors d'un culte. Et cet aspect de sa personne nous intéresse dans notre découverte de ce qu'est la mission chrétienne. En prenant au sérieux la parole de Jésus, on constate que la mission chrétienne commence au plus profond de l'être même de Dieu. Dans son être même, le Dieu 3x1 trinitaire est missionnaire. Le Père envoie son Fils dans le monde, qui à son tour envoie son Esprit dans le monde. Au plus profond de son être, Dieu, en qui nous plaçons notre foi, est quelqu'un qui part en mission, qui refuse consciemment de rester dans la plénitude là où il était, la plénitude de la communion qui règne dans le ciel, pour venir apporter le salut aux humains dans le monde. Un monde hostile, il le savait, un monde hostile qui préfère les ténèbres à la lumière. Notre Père est quelqu'un qui envoie, quelqu'un qui se met en mouvement pour rejoindre ceux qu'il aime. Jésus le Fils est celui qui sort du Père et qui accueille par là même sa vocation d'envoyer. Finalement, l'Esprit Saint accepte lui aussi sa vocation d'envoyer en l'absence physique de Jésus. Nous sommes à la fin, nous ses disciples, d'un vaste mouvement d'envoi, un vaste mouvement missionnaire qui ne cesse de se déployer. Il y a une continuité absolument extraordinaire et claire entre le mouvement initié par Dieu le Père qui envoie son Fils dans le monde et celui qui voit le Fils envoyer ses disciples, nous, dans le monde avec le secours du Saint-Esprit. En tant que disciples, nous faisons partie intégrante d'un mouvement initié par Dieu lui-même, ni plus ni moins. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit qu'on est part de ce mouvement qui vient du cœur même de Dieu, qui nous envoie dans le monde? Ce mouvement, il nous donne le vertige parce qu'il nous dépasse complètement. Il nous dépasse parce que nous n'en sommes pas à l'origine. Et ainsi, l'Église véritable et missionnaire ne pourra jamais être une entreprise humaine. Ne peut qu'être une entreprise divine parce que c'est lui qui nous envoie et c'est lui qui nous accompagne dans ce mouvement missionnaire. Ça nous dépasse aussi parce que c'est assez fou de considérer que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, décide consciemment de nous inclure, nous, tels que nous sommes, dans le même mouvement que lui, et en pleine communion avec lui. On se rend compte de ce que ça veut dire, ça? Être dans le même mouvement que Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, pour être ses témoins, envoyés là où il décide de nous envoyer. Est-ce que l'on accepte cette vocation de la même manière que Jésus a accepté cette vocation d'être envoyé? C'est la question qu'on peut se poser avec les disciples. Le Fils, l'Esprit, ils ont accepté leur vocation d'être envoyés dans le monde. Comment vivons-nous cette place qui nous est offerte par le Père? Et là, de nouveau, le texte nous renseigne. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? L'heure vient et elle est venue. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » On vient de le chanter, hein, dans la louange, on est bien dans l'église. On l'a chanté à plusieurs reprises, « Je te donne tout, je te choisis, je te donne tout mon cœur. » Puis j'ai l'impression que Jésus nous pose un peu la même question. Ouais, c'est bien. Vous avez fait une belle confession de foi. Nous avons fait une belle confession de foi. Et maintenant, vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? L'appartenance à ce mouvement unique n'est pas chose aisée ni évidente, surtout lorsqu'il s'agit des conséquences pratiques. Une confession de foi, aussi enthousiaste et authentique soit-elle, doit aussi passer l'épreuve du feu des faits, des actes concrets qui sont posés en vue d'assumer notre appartenance et ce qui est proclamé. Son ironie mordante de Jésus, et ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi avec ses disciples, a de quoi nous étonner. On s'attendrait plutôt à ce qu'il nous donne une tape dans le dos, qu'il nous encourage, qu'il soit ce Jésus qui nous pousse en avant, qui nous accompagne bienveillant. C'est aussi ça. Mais c'est aussi parfois, si vous lisez attentivement les évangiles, quelqu'un qui challenge ses disciples et puis qui leur dit « Mais attends, il va les chercher. Vous croyez maintenant ? Et dans quelques heures, vous allez m'abandonner. » Certainement qu'il mesure mieux que quiconque le prix à payer pour pouvoir assumer sa vocation dans ce mouvement voulu par Dieu. Ce n'est pas chose aisée d'assumer cette vocation que Dieu nous donne. Il sait bien que le défi sera de taille pour les disciples et il ne se trompe pas, malheureusement, en annonçant leur dispersion prochaine. Je vais perdre le fil de mon PowerPoint. Cette prophétie nous en dit long sur notre nature de disciples et l'exigence de l'appartenance au Christ. Je suis presque un peu désolé ce matin devant vous de souligner ces aspects qui ne vont pas dans cette direction d'un encouragement plein et positif de Jésus. Parce qu'au contraire, cette prophétie ose souligner les failles de l'engagement des disciples. Il souligne nos propres failles dans notre capacité à le suivre. Le risque de la dispersion, là où nous sommes, est réel. Le risque de briser le mouvement et de renoncer à notre vocation, de notre condition de disciple, est bien là. Et en ce sens, on peut vraiment, en toute humilité, se placer devant Dieu et dire cette église que nous essayons de former, cette église de missionnaires, nous te la confions et nous avons besoin de ton aide. Nous nous savons faillibles dans notre engagement et nous avons besoin de ton aide pour aller de l'avant. Et comme nous allons le voir, Jésus ne va pas s'arrêter sur cette observation ironique. Il va aller au-delà. Si on essaie de réfléchir en quelques mots, qu'est-ce que ça peut être cette dispersion ? C'est tout simplement le contraire de l'unité telle qu'on la voit sur cette image, où on se réunit autour de la croix. La dispersion, c'est être seul, chacun de son côté, à l'instar des disciples, après le procès de Jésus. Et la dispersion, c'est pour reprendre l'image qui nous a été donnée par Alain Geyser lors d'un précédent message, c'est comme cette image, plutôt que d'avoir un grand filet qui représenterait l'Église et que tous ensemble on peut jeter au large, en pleine mer, ce serait comme si chacun essaye d'avoir son petit bout de filet de 5 cm carrés, puis qu'il essaye d'aller chacun dans son coin, dans sa petite mare, pêcher ce qu'il a à pêcher. Un peu comme un enfant qui va avec son épuisette, chacun la sienne, et puis qui essaye comme ça d'avoir un certain impact. C'est vraiment cette image-là qui m'est venue, puis je me suis dit, mais elle correspond malheureusement à une certaine réalité, où on essaye avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup de bonnes intentions, d'aller chacun dans notre coin avec notre petit filet. Et puis j'ai beaucoup aimé son image, Alain, qui nous a dit, mais la mission, il y a vraiment autant un aspect intérieur qui nous concerne particulièrement nous ce matin, de se dire la qualité des liens qui sont les nôtres, ce sera la qualité du filet qui va pouvoir être envoyé dans le monde. C'est la qualité de ce filet, plus il est serré, plus nous pourrons être à notre place dans le monde et solidaires les uns des autres. Et c'est vraiment cette vision que j'ai pour notre Église, que ces filets puissent autant se renforcer lorsque nous sommes ici dimanche matin, pour pouvoir nous permettre d'aller, d'ouvrir nos portes et de placer nos filets là où nous sommes le reste de la semaine. Parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas dispersé le reste de la semaine, on est là tous ensemble, comme tous ensemble ce matin. Pour autant que les confessions de foi que nous avons chantées avec force, vigueur, on puisse les assumer, nous, les êtres faillibles que nous sommes. On n'est pas là pour être des disciples parfaits ou des témoins parfaits, parce que même les premiers disciples ne l'ont absolument pas été. Par contre, on est encouragé à vivre cette unité, même durant la semaine, même là où nous sommes, dans nos contextes familiaux, dans nos contextes professionnels, dans nos contextes scolaires. Puis n'oublions jamais, lorsqu'on est dans ces moments-là, que même si on peut avoir l'impression d'être dispersé, en fait, on ne l'est pas. Tout simplement, nous ne le sommes pas. T'arrives juste à avancer, Eduardo, je voudrais monter là. J'arrive pas avec la zapette, là. Cette vision de l'unité où nous retrouvons tous autour de cette croix pour annoncer qui est Jésus pour nous. Ce Jésus qui est sorti du Père, qui est venu dans le monde et qui est reparti auprès du Père. C'est ça qu'on doit annoncer. C'est ça le cœur de l'évangile. Je causais encore hier avec quelqu'un qui m'a dit, dans mon église, pendant très longtemps, on a essayé d'être agréable, notamment avec les jeunes, de faire plein d'activités entertainment, ou bien des choses comme ça, enfin, plutôt des activités de loisirs. Puis on a oublié d'annoncer l'essentiel. Puis c'est un peu un risque qui nous guide tous de se dire, ben, on va annoncer plein de choses périphériques à l'évangile, mais qu'on ne va plus annoncer le fait que Jésus est sorti du Père, qu'il est retourné au Père et qu'il est venu pour nous sauver, nous personnellement. C'est simple hein, comme message, et pourtant, c'est très difficile à communiquer. Et Jésus ne termine pas, comme je vous l'ai dit, sur cette ironie mordante, mais il termine par cette promesse, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas rester au stade de l'ironie avec ses disciples. Il sait très bien que pour assumer leur mission, pour assumer leur vocation d'envoyer, comme nous nous sommes appelés à assumer cette vocation d'envoyer, on a besoin d'avoir ses promesses et son exemple. Pour que vous ayez la paix en moi, dans le monde, vous connaîtrez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. En tant que disciple, on est vraiment à la suite de celui qui a préparé le chemin. On peut mettre nos pas dans ses pas et ainsi avoir la paix d'assumer notre vocation d'envoyer. Ainsi avoir la paix d'assumer qui nous sommes vraiment en Christ, celui qui plaçons notre foi dans celui qui est sorti de Père pour venir vers nous. Et je vous propose quelques, comme je vous l'ai proposé sur le Frat News, quelques possibilités. Toute pratique, toute concrète, toute imparfaite, de pouvoir jeter tous ensemble nos filets. Je vous ai mis le Festival Connexion qui aura lieu au mois de septembre, les 2 et 9 septembre. Ce festival, je vous le répète, c'est d'aller simplement dans deux quartiers, offrir une présence chrétienne de connexion, de communion avec les habitants de ce quartier. C'est notre frère Alain Geyser qui chapeaute tout ce projet-là. Il y aura Alain Oudercet qui va pouvoir donner aussi son témoignage. Puis le but, c'est non seulement de pouvoir donner quelques coups de main, mais comme vous l'avez compris dans le titre, c'est avant tout d'être en connexion, d'offrir ce que nous avons. Puis moi, j'ai été touché dans ce moment de louange à quel point notre cœur chantait, notre cœur s'ouvrait à Dieu. Puis de se dire, mais ce même amour, on a envie de le partager. On n'a pas envie qu'il reste seulement entre nos murs, on a envie de le partager. Il y a aussi samedi prochain, si ça ne vous convient pas tellement, connexion dans des quartiers, vous pouvez aller samedi prochain avec une formation animée par Guy, Sabrina, Mathieu, je ne sais pas tous ceux qui y sont, mais Disciple on the Road, là c'est vraiment de l'évangélisation de rue. Donc c'est d'aller au contact directement dans la population, c'est samedi prochain ici à la Frat pour quelques enseignements, et aussi dans les rues de Nyon pour le reste de la journée. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez encore avoir les Crazy Games, qui auront lieu cet été, du 7 au 11 août. Et puis pour nous, c'est particulièrement la date du 11 août qui est importante. Parce que cette date-là, on invite, le dernier jour des Crazy Games, c'est donc des joutes sportives pour les enfants, on invite tous les parents des enfants, soit chrétiens, pas chrétiens, à venir fêter la fin de cette Olympiade avec un apéro dînatoire. Non seulement la Frat prépare l'apéro, mais c'est aussi l'occasion unique de partager avec des centaines de personnes. On attend à peu près 500 personnes qui sont là, qui savent de quoi il s'agit. C'est des joutes sportives chrétiennes où les enseignements bibliques sont là. On a là l'occasion d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir ce que Dieu fait dans nos vies, son amour pour nous. Et finalement, j'ai encore mis les Connect Groups, c'est ces nouveaux groupes de maisons qui se sont formés. Il y en a 3 qui se sont formés dans notre église, plus encore celui que j'anime avec Marc L'Expérience, où on peut vraiment découvrir petit à petit qui est Jésus pour nous, en posant toutes les questions qu'on veut, tout ce qu'on a sur le cœur. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Et finalement, je ne l'ai pas mis sur la slide, il y a encore les cultes de baptême. Le 25 juin, dans un mois à peu près, nous aurons la joie de vivre un culte de baptême. Et je connais plusieurs personnes qui sont touchées par ces témoignages de vie extraordinaires qui vont pouvoir être écoutés et reçus de notre part durant ce culte du 25 juin. Donc, n'hésitez pas, invitez le maximum. Les baptisés vont inviter leur famille, leurs amis, évidemment. Mais nous, c'est aussi une occasion, un culte magnifique où on peut inviter des personnes qu'on aurait peut-être sur le cœur. Donc, voyez, c'est des éléments de pratique. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Peut-être que vous avez encore plein d'autres idées qui sont encore mieux que celles-là. Mais c'est une occasion, là, de lancer notre filet tous ensemble parce que c'est effectivement des activités d'église. Des manières pratiques d'assumer notre vocation d'envoyer dans le monde.